Donc définir les émotions, en fait, c'était difficile parce qu'il y a beaucoup de théories qui ont leur propre vision. Et puis, on a censé qu'entre en 10 ans, il y avait eu 92 définitions différentes des émotions, c'est-à-dire que chaque chercheur ou chercheuse qui publie dessus donne sa propre définition. Donc moi, j'essaye de faire, compte tenu de tout ce que j'ai réussi à acquérir comme connaissance sur le sujet, j'ai fait un petit mixte d'une définition et je vais vous la proposer. Sachant d'abord que ça vient du latin « ex movere », qui signifie « movere », c'est le mouvement, « mettre en dehors du corps »,« mouvoir en dehors du corps ». Donc on a déjà l'idée pour définir que ça agite. Alors, je vous propose une définition à minima, mais on va voir déjà qu'elle peut être empreinte d'idéologie, de théorie. Ça serait une réaction psychologique et physique à une situation qui a d'abord une manifestation interne, qui génère une réaction extérieure, qui dure peu de temps, ça c'est vraiment à retenir, et qui est provoquée par la confrontation à un événement ou à une pensée et à l'interprétation de cette réalité. Donc on voit, si on décompose cette définition, que l'émotion associe, donc elle a une manifestation interne, elle associe d'abord des sensations physiologiques, modification du rythme cardiaque, du tonus musculaire, de la vigilance, de la sudation, pression artérielle, pression sanguine, réponse électrodermale, hein, avec le fameux test de détection de mensonge, voilà. Elle associe aussi, donc, génère une réaction extérieure, ben, ça se voit quand nous avons une émotion. Si nous savons la détecter, chez les autres, nous la constatons. Donc il y a des réponses motrices spécifiques qui vont de la crispation des mains, des muscles du visage, à la fuite ou à l'attaque en situation de danger ou de stress, au fait de sauter de joie, on revient au foot, hein. On les voit sauter de joie quand une manifestation, quand un événement agréable arrive. On dit ensuite, bon, elle dure peu de temps. On verra que cela distingue d'autres mots qui sont employés pour parler des émotions, notamment des affects, des sentiments. Donc, elle associe aussi des représentations mentales, dans la mesure où je dois détecter pourquoi j'ai une émotion, j'ai des pensées sur ces émotions, et puis aussi je dois décider ce que je vais en faire. Et on peut dire aussi que pour toute analyse comportementale, il faut se poser trois questions quand il y a des émotions. L'évaluation, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, j'ai une petite contrariété, j'ai dû me poser, me dire, voilà, quel est mon degré de contrariété, pourquoi je l'ai, qu'est-ce que je peux en faire? Donc évaluation, qu'est-ce qui va arriver? Des réponses. Et qu'est-ce que je peux faire avec? Donc je me prépare à l'action. Ben, les évaluations, ça veut dire que je vais décoder les faits qui déclenchent l'émotion, sachant que l'événement peut être pertinent pour moi, mais pas pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ici si vous avez des phobies. Moi, j'en ai une, c'est la musophobie, c'est la peur des mangeurs. Et j'ai hurlé devant le cadeau de mon chat il y a une semaine. J'ai dû pousser 20 cris stridents, toutes portes ouvertes. Aucun voisin n'est venu. Et après, parce qu'elle m'a mené dans la cuisine quand même. Donc il a fallu que je dégage la bête. Alors d'abord, j'ai eu la réaction de fuite, de fermer toutes les portes. Ensuite, j'ai dû mettre ma raison. Je me dis, François, si tu es seule dans ta maison, tu ne peux pas laisser une souris qui agite encore ses pattes dans la cuisine. Donc il va falloir que tu fasses quelque chose. Et le lendemain, quand j'ai raconté ça à quelques voisins, oh, mais t'aurais dû m'appeler, moi j'ai pas peur. Vous voyez, la peur des uns n'est pas celle des autres. Donc, déjà, dans la notion de peur, c'est très personnel ou très culturel. Donc, les réponses, ben, les réponses, on vient d'en parler, physiologiques et corporelles, et les réponses peuvent être expressives avec les mimiques. Maintenant, ben, les smileys. Moi, je trouve ça bien pratique d'ajouter des smileys quand on écrit. Surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'on écrit peu de temps, on écrit peu de mots. Puis ça se voit, hein, quand vous avez coupé le rond-point à une voiture et que souvent c'est un mec qui peut le dire, qui sort comme ça, poisseré, hein, on voit son visage, ou on ferme la vitre. Voilà. Donc il y a des manifestations physiques des émotions, là aussi qui changent selon les gens. Et puis on peut avoir aussi dans les réponses des rapports verbaux sur ce qui nous arrive, voilà, pouvoir dire, moi je conseille de dire, t'es con, dire, mais il fait peur, pourquoi vous avez coupé un point? Et bon, voilà, on parle aussi de nos émotions. Et puis la composante, la dernière, la composante de préparation à l'action, ben, quand je vois le mec qui vient m'engueuler au rond-point, c'est aussi une situation vécue, est-ce que je fuis, est-ce que je passe ma vitre et que je l'écoute courageusement, voilà. Différentes. Vous voyez qu'on met déjà trois étapes dans le vécu d'une émotion. Alors, je vous ai dit dans la différence, dans les différentes significations des émotions, définitions, quand on regarde dans un dictionnaire classique, quand on en parle entre nous, on confond, et c'est peut-être pour ça que vous ne savez pas définir, on confond avec sensation, avec sentiment, avec affect. Donc, on va faire la différence entre sensation, émotion, sensation, en fait, sensation et sentiment. Alors, la différence entre émotion et sensation, la sensation, ça part souvent d'une une perception sensorielle, je sens, ça peut être le chaud, le doux, le rêche, le froid. C'est une texture, la sensation d'une texture, d'une température, et ça peut être aussi un état psychologique, découlant d'informations à tendance affective. Alors c'est compliqué à d'associer les deux, mais on dit sensation, je me sens bien, je me sens calme. Moi je demande aux personnes que j'ai en psychothérapie, là on vient d'aborder tel sujet, comment vous vous sentez? La personne dit je me sens bien, c'est pas forcément une émotion. Et pourquoi on fait, en fait, on n'arrive pas trop à faire la différence? Parce que les sensations peuvent amener une émotion. Mettez la main sur la plaque électrique, vous allez sentir la brûlure, après vous allez être en colère contre vous, contre le sort ou contre la personne qui a fait le compte avant vous. Donc voilà, déjà c'est compliqué. Différence entre émotion et sentiment, et c'est vrai que dans la littérature on confond souvent ça. C'est plus compliqué à comprendre, mais je vous ai dit dans la définition d'émotion qu'elle durait peu de temps. Donc si on peut se raccorder à ça, un sentiment ça occupe beaucoup. Vous voyez, dans ce bouquin-là, enfin, le Lord Christophe André, la force des émotions, il met amour, colère, joie. L'amour, ce n'est pas une émotion, c'est un sentiment, mais ça peut procurer des émotions. Un sentiment, c'est un mélange d'émotions, de pensées, le Robert dit, c'est un état affectif complexe et durable, lié à certaines émotions, représentations. La jalousie, l'envie, la honte, l'amour. Mais les sentiments, ce n'est pas une réaction émotionnelle, sauf le coup de foudre. Le coup de foudre, c'est une sacrée émotion. Et puis aussi, quand une émotion dure, elle peut se transformer en sentiment. Mais voyez l'ambiguïté. Je parle à un public qui n'a pas l'âge de mes étudiants. J'en ai parlé à Françoise Sagan la dernière fois que je donnais ce cours. Je leur ai demandé s'ils connaissaient Bonjour Tristesse ou s'ils écoutaient France Inter. Et vous avez une célèbre émission de France Inter qui commence avec cette phrase de François Sagan sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède et j'hésite à poser le nom, le beau nom grave de tristesse. Mais dis bien, c'est un sentiment. Et pourtant, la tristesse est une émotion aussi. Quant aux émotions et affects, les affects, ce sont juste des impressions d'attraction et de répulsion. Voilà, ça peut être positif ou négatif, la haine, l'amour, ce sont des affects. Et puis voyez que ce sont aussi des sentiments. Donc c'est bien compliqué tout ça, hein, pour travailler dessus. Alors, les caractéristiques des émotions, il y a quand même un consensus qui peut être utile à l'analyse. Il y aurait des émotions primaires et des émotions secondaires. Tu ne me passeras pas finalement la route plus chic, donc ça fait rien.
Un de câble, comme je peux apporter le.
D'accord. Donc les émotions primaires, elles ont été définies par Darwin, qui les avait trouvées sur les animaux. Alors là aussi, la difficulté d'étudier cet objet, ce concept, c'est que chaque chercheur a son nombre d'émotions. Pour Ekman, dont je vais vous parler plus tard, il y en a 16. Pour Darwin, il y en a 6, pour d'autres, il y en a 8, il y en a 8, donc c'est bien compliqué. Est-ce que vous en connaissez quelques-unes d'émotions? La peur.
La colère.
La colère.
Le dégoût.
Et du coup ?
La surprise.
Oui.
La joie.
La joie.
La violence, la frustration.
Frustration, violence, ça a un lien avec la colère. La tristesse. On a à peu près toutes les émotions. Comment ?
Le rire. Non,
c'est une manifestation, le rire. Oui, c'est pas l'émotion.
La joie.
La joie, oui.
Oh, ça recommence.
Donc vous voyez qu'on les connaît quand même, puisqu'elle nous agite aussi. Hein. Il y avait un film qui est sorti Vice-versa, vous ne l'avez pas vu, avec vos petits-enfants. Donc il y avait 5 émotions qui étaient, vous l'avez vu, qui faisaient partie du film, du scénario. Donc ces émotions primaires, on peut les combiner ensemble et ça devient des émotions secondaires. Et je voulais vous montrer quelque chose que vous trouverez dans vos téléphones, la roue de Plutchik, Plutchik, P-L-U-T-C-H-I-K, qui a organisé ce qu'il appelle une figure en termes de circumplexe, c'est-à-dire cette grande figure en étoile où il met les émotions principales au centre et il en étudie les variations. Et quand il fait un dessin comme ça, alors, je ne vais pas pouvoir faire passer le dessin au micro. Voilà, il met chaque émotion comme ça au centre. Joie, colère, tristesse. Alors lui, il met des couleurs aussi. On associe la colère à quelle couleur ?
Rouge.
Voilà, tristesse, on va l'associer au bleu, et ainsi de suite. Et donc, il met les émotions principales au milieu, et entre les deux, il va écrire l'émotion secondaire. Qu'est-ce que je peux vous trouver comme émotion secondaire ? Vous avez entendu parler de honte tout à l'heure. La honte, ça serait la colère plus la peur, par exemple. Donc, des émotions combinées. Et puis, c'est très important, moi, je vais vous parler à la fin, si j'ai le temps, du langage, du fait de savoir ce qu'on ressent, de pouvoir le nommer, c'est très important. J'avais une cliente qui me disait être dépitée, et elle me disait, mais dépitée, je voudrais vraiment vous expliquer comment je me ressens vis-à-vis de ce qui m'est arrivé, je cherche les mots, et puis en thérapie, voilà, il faut trouver le mot juste, et quand on trouve le mot juste, il y a un soulagement. Et elle me disait, mais finalement, j'ai de la tristesse et du ressentiment, voilà, je me sens dépitée vis-à-vis de ce qui m'est arrivé. C'était très important, quel est son vocabulaire. Donc, des émotions primaires et secondaires, autres caractéristiques, elles ont des degrés. Elles ont des degrés, par exemple, pour la colère, ça peut être de la contrariété, de l'irritabilité, de l'indignation, des tracas. Et puis, vous voyez, c'est un petit peu comme une note quand on jouait de plus en plus fort. La colère, la fureur, l'indignation, la haine, la violence. Vous savez que dans un accès de rage, on peut tuer aussi. Et ça, c'est très important. On ne va pas dire « je suis en colère, je me sens pas bien, je suis contrariée. Oh, j'en ai envie, celui-là, j'ai envie de mettre un coup de boule. » Donc, à chaque émotion, il y a des degrés. Donc, les émotions aussi ont comme caractéristique qu'on ne les confond pas. En principe, quand on est joyeux, on ne se sent pas triste. Quand on est en colère, on n'a pas peur. Et pourtant, il y a des manifestations physiologiques de ces émotions qui entraînent les mêmes conséquences dans le corps. Mais ce n'est pas la même émotion ressentie. Autre particularité, et c'est celles qui me connaissent savent que j'y tiens, elles sont sexuées, les émotions. En ce qui concerne ce qu'on peut éprouver quand on est un homme ou quand on est une femme, ce n'est pas perçu de la même façon. Il y a une recherche que cite Christophe André dans La force des émotions, sur les expressions de la colère selon qu'on est leader femme ou homme. Peut-être que Florian la connaît, cette expérience. Tu la connais pas ? Alors, colère et leadership. On demande à des sujets d'évaluer la crédibilité d'un patron qui va annoncer des mauvais résultats selon qu'il est un homme ou une femme, et selon qu'il l'annonce avec colère ou avec tristesse. Et les employés vont plus facilement accorder du crédit à un patron qui est en colère, un homme qui est en colère, qu'à une femme qui est en colère. Ça va mieux passer si c'est l'homme qui manifeste de la colère. En revanche, si la femme, ça fait drôle de dire patronne, mais ça fait rien, on va dire la patronne. La patronne, on a la tristesse, voire carrément quelques larmes. Ça va très bien passer, on la comprend. Les femmes. Mais si c'est le patron qui pleure, non, mais qu'est-ce que c'est qu'il aille prendre des cours de gestion des émotions, je ne sais plus rien. Vous voyez déjà. Par rapport à la tristesse, par rapport aux larmes, puisque je vous avais promis des larmes aujourd'hui, l'expression des larmes chez les hommes, c'est aussi une expression culturelle. Alors ça, c'est une trop pas. J'aime bien citer ces recherches. Avant, les hommes pouvaient pleurer. Et puis, il y a eu ce qu'on appelait le pessimisme ou de l'érien. Rappelez-vous, au 19e, Alfred de Vigny, l'amour du loup. Suis énergiquement ta langue et lourde tâche jusqu'où le sort a voulu t'appeler, et puis après, comme et moi, souffre et meurs sans parler. Non, si là-dessus vous avez regardé pied, tu seras bien mon fils, si tu pouvoir un jour périr, sans détruire le voile de ta vie, et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir, sans dire un seul mot te mettre à rebâtir. Bon, mais c'est pas tu seras un homme, mon fils, c'est pas tu seras un humain, mon fils. Un homme. Être un fils, être une fille, ça me paraît. Donc il y a une gestion culturelle des émotions aussi sexuées. Bon, je vais passer sur tout ça. Alors, il y a quatre grandes théories qui cherchent à expliquer ces courants. Donc vous avez Darwin, la psychologie, enfin l'évolutionnisme. Darwin, c'était un éthologue, on peut dire. Pour Darwin, c'est ce qui persiste des émotions. Ça vient essentiellement des animaux. Nous avons les mains moites, parce qu'avant, les singes avaient besoin, pour s'enfuir, quand ils avaient peur, de pouvoir s'accrocher aux branches. Nous, ça ne nous sert plus à rien de voir les mains moites quand on a peur, mais ce sont des résidus qui font que nous savons que nous arrivons au terme de notre évolution et que nous évitons ça des animaux. Ce n'était pas forcément adaptatif, on n'est pas encore dans le lien entre émotion et raison, je vais en parler après. Mais voilà, nous aurons ces mécanismes que les grands singes auront, que même la paralysie, si vous lui mettez une goutte d'encre dans l'eau, elle va s'éloigner de l'endroit où elle est, elle va fuir aussi. Alors ça, l'histoire que ce n'est pas adaptatif, vous avez Pierre Janet, un philosophe, un médecin, qui dit que c'est une conduite de non-adaptation à l'environnement et qu'elle est paralysante et désorganisatrice. Alors, il y a deux théories qui s'affrontent ensuite. James, on le relit souvent dans la littérature, il va dire, en fait, nous sommes émus parce que les manifestations de notre corps nous apprennent que c'est une émotion. Si un ours rentre, je vais commencer à regarder bizarrement, je vais décider ce que je vais faire, mais je vais surtout le faire parce que je vais sentir des sensations physiologiques dans mon corps. L'ours, sensations physiologiques, j'en déduis que j'ai peur. Donc nous sommes émus parce que nous avons des manifestations physiologiques. Et ça, c'est mis en question par deux chercheurs qui s'appellent Cannon et Bard. Là, je vous parle du début du 20e siècle. En fait, pour Cannon et Bard, l'émotion serait le résultat d'un traitement cognitif. J'évalue la situation. Mon voisin, papa, la souris, m'en beaucoup. Et puis, en fonction de ça, je me mets à hurler. Donc, c'est parce qu'on a une évaluation cognitive de ce qui se passe qu'on a des manifestations physiologiques intérieures, des manifestations comportementales qui se voient et des réactions. Nous avons aussi une approche culturelle des émotions. On a fait une expérience en amphi. On mélange les étudiants américains et les étudiants japonais. Et on leur montre des images de guerre, des images très violentes. Et on voit que sur tous les visages, se vit une émotion terrifiée. On sait comment peuvent être ces images. On en a vu avec les attentats. On imagine ce que ça peut être. Et puis on fait rentrer on perturbe l'expérience. On fait rentrer un enseignant. Et on refait passer, peut-être un autre groupe, on refait passer ce film-là. On voit que les jeunes étudiants américains manifestent les mêmes émotions de peur, ça se voit. Les Japonais ne bronchent pas. Ils ne manifestent pas du tout, ça ne se voit pas. Parce qu'ils ne doivent pas montrer leur peur. Donc ça, c'est l'approche culturelle d'un certain côté, parce qu'il y a aussi l'approche universaliste. Donc vous avez Paul Ekman. Paul Ekman, on lui doit l'assistance psychologique du feuilleton Lie to Me. Vous savez, ce feuilleton avec ce psychologue qui aide la police, qui est spécialiste de l'étude des micro-émotions. Oh, il est très célèbre. Je ne l'ai pas en français le titre. Mais...
Non, c'est un
Lie to Me. Lie to Me, c'est ça. Paul Ekman, il disait que l'expression de nos émotions, nos mimiques, sont universelles. Et il va travailler sur quatre émotions, la tristesse, la colère, la peur, la joie. Oui, ça fait quatre. Avec des photos d'humains qui vont exprimer les émotions. Il va aller dans 64 pays différents et il va dire aux gens quelle est l'émotion que vous voyez sur la photo. Et ces émotions sont universellement reconnues. Donc la critique qu'on a faite avec Mann, c'était de ne travailler que sur des composantes de l'émotion. Juste les visages, que l'émotion n'est pas agie, n'est pas actée, et que c'était un petit peu facile. Donc voilà, on a beaucoup de visions. Vous voyez que la théorie, quand je vous ai donné la définition au début, je vous ai dit... C'est là que les étudiants notent, ils peuvent me rappeler ce que j'ai dit.
Il en manque une, tu as dit quatre.
Réaction psychologique et physique à une situation. Mais c'est un parti pris parce qu'il n'y a pas écrit réaction culturelle déjà. Et puis, est-ce que le psychologique vient avant le physiologique et tout, on ne sait pas trop. J'ai dit quatre, Jean-Luc, quatre ou quoi ?
Éthologique, culturaliste, universaliste et...
En fait, il y a beaucoup de chercheurs différents qui ont travaillé. Hein, dans la psychologie, il y a Janet, il y a James, il y a Kanemba. Anthropologie, la dernière, tu peux l'appeler universaliste. Bon, j'ai fini la première partie sur les émotions, je vais peut-être tenir mon temps, mais je vais peut-être suggérer qu'une femme a tellement de retard de parole sur la planète, sur l'histoire, que je vais prendre 10 minutes. Oh, là, je cite une émotion. 10
minutes sur la salle.
Donc, vous voyez que là, je vous ai parlé des émotions. Vous voyez qu'on peut étudier l'émotion pour se calmer. Je ne sais pas si vous auriez fait cette définition que j'ai donnée. Maintenant, je vais faire le lien avec la raison. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous la raison ? Je sais que j'ai des êtres très raisonnables ici. Je me dis, mon Dieu, je donne une conférence au cerveau dédié. Ce n'est pas des étudiants qui sont prêts à gober tout ce que je dis. Ils sont exigeants, pointilleux, savants. Alors, c'est quoi la raison ? Ne le regarde plus sur ton téléphone de nuit. Une démarche intellectuelle logique. Ça pourrait être ça. Dans la logique, est-ce qu'il y a de l'émotion ? Alors, pourquoi j'intitule mon cours Émotion et cognition ? Parce que les étudiants, au moment où je lui donne ce cours-là, je leur ai parlé de psychologie cognitive, je leur ai parlé de ce que c'est. Donc, cognitif, ça veut dire, ça vient du latin cognoscere, connaissance. C'est à la fois le produit des processus d'acquisition de la connaissance et le processus, la cognition. Donc en psychologie, on ne parle pas de raison. La psychologie, déjà la définition, c'est décrire, expliquer, prévoir les conduites humaines observables. L'inconscient ne s'observe pas. L'intelligence ne s'observe pas. La raison ne s'observe pas. Mais il y a des manifestations, Freud disait, il y a des manifestations. Je parlais de Freud. Il y a des manifestations de l'intelligence. Rappelez-vous, on a parlé de l'universalité, la définition de l'intelligence. Binet Simon, les créateurs du test de QI, disaient c'est ce que mesure notre test. Donc voilà, la raison, ça ne s'observe pas, mais il y a cognition et ses produits, oui. Donc pourquoi en gros, cognition, c'est synonyme d'âme, d'esprit, de raison. Hein, quand on le voit dans les écrits philosophiques et certains psychologiques ou banals, l'esprit, l'âme, la raison, ce sont des cognitions en fait. Donc, raison, c'était pour faire un joli titre, quand j'en ai eu, ils sont contents. tu m'as fait faire le texte, c'est quand même l'introduction. On va parler de cognition, c'est ça qu'on étudie. On sait aussi que raison, on peut parler de rationalité parce que ça on l'étudie en psychologie et vous savez qu'on est vu comme des êtres humains à rationalité limitée. Hein, c'est les thèses d'Herbert Simon qui dit que quand on fait un choix, et notre enseignant, c'est peut-être Bouillet, qui c'est qui a eu Bouillet comme enseignant 2000, disait, on fait un choix de voiture, si on devait, la logique et la raison serait qu'on examine toutes les voitures, qu'on fasse des colonnes, que voilà, il y a des stéréotypes là-dessus, les femmes choisiraient sans la couleur, les hommes bien plus raisonnables, le moteur, l'injection, la puissance, les hommes sont raisonnables, c'est un stéréotype. On va parler de commission. Alors, pourquoi on n'a pas lié les deux en psychologie? Donc ça vient d'une longue histoire qui nous vient de la philosophie, puisque la philosophie est l'ancêtre de la psychologie. La philosophie a raisonné sur les comportements humains, a réfléchi plutôt que raisonné. Qu'est-ce qui fait que l'humain, l'homme, a peur, croit, agit? Et vous vous rappelez cette phrase de Pascal que mes étudiants me citent, hein, quand je leur dis quel lien vous faites, ils me disent « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Alors Florian me reprendra tout à l'heure, parce que ça ne veut pas du tout dire ça. Je le sais, Florian, je le sais. Je vois ta mimique, là, tu t'agites. Tu es en train de dire « c'est pas ça, ah, moi, je peux vaguement indigner ». Mais souvent c'est ça, mon cœur. J'étais à un colloque en surgence hier, et l'avocat qui a fait la conclusion, elle a parlé du cœur, tout le temps, le cœur. On ne fait rien de spécial avec le cœur, sinon qui bat et que voilà, s'il n'était pas, on ne serait pas vivant. Mais bon, pas trop de lien avec les cerveaux quand même. Et voilà, on a cette idée qu'il y a une différence quand même entre le cœur qui fait partie de notre corps, là, et puis notre tête quand même. La raison, c'est la raison, c'est pas dans le cœur, dans les viscères. Donc, pour les Grecs, dans Platon, le cœur est le siège de l'âme sensitive. C'est le lieu de la sensorialité, des passions amoureuses et guerrières, de certaines opinions politiques, et ça, on le constate. On constate que certaines opinions politiques agitent beaucoup. Alors que le cerveau est le siège de l'âme de la raison, donc le logos. La science. Et Platon décrit un combat entre ces deux âmes, hein, l'âme de raison devant tempérer le débordement des passions de l'âme sensitive grâce à la logique et la réflexion. Mais voyez que ces idées, je vous ai fait une conférence ici il y a longtemps sur la représentation sociale, on hérite des idées, elles sont là, elles sont diffuses et elles nous aident à avoir d'autres connaissances. Cette dichotomie, elle était là depuis longtemps et on sait que Pascal, c'est pas du tout ça qu'il voulait dire. En fait, il parlait de deux façons d'accéder à la connaissance, et que c'était pas les mêmes façons. Puis on sait que Pascal était croyant aussi, et qu'il avait peut-être intérêt à faire cette dichotomie entre le cœur et la raison, puisque il était croyant, il fallait bien séparer le corps qui était mortel et peut-être l'âme qui était immortelle. Mais regardez comment ça imprègne quand même notre langage. On dit d'avoir le cœur brisé. Je ne sais pas si Gilles, tu as vu des réparations de cœur brisé?
Oui,
du cœur artificiel. Oui, c'est pas tout à fait ça. On a avoir gros sur le cœur. On a avoir gros sur le cœur. Avoir un coup de cœur. Hein, si y en a qui cherchent leur partenaire sur des petites applications, là, on donne des coups de cœur. Après Descartes au XVIIe siècle, et Descartes, c'est ce qui fait de nous des cartésiens, des zététiciens, des scientifiques, et nous y tenons à ça. Ça devient de plus en plus dur à défendre, mais nous y tenons. Donc pour lui, il y avait une substance pour le corps, une autre pour l'esprit. On appelait ça le dualisme cartésien. Là aussi, je résume énormément. Et c'est ça Spinoza, effectivement, son contemporain, hein, au XVIIe siècle, qui s'est rebellé. Il disait l'esprit et le cœur devraient avoir une racine commune. Doivent avoir une racine commune. Donc c'était une position courageuse pour cette époque, mais elle est restée incomprise et on a longtemps été dans le dualisme cartésien. Alors en même temps que ces héritages philosophiques, la psychologie est en train de naître comme une science. La psychologie se détache peu à peu de la philosophie. On doit à Wundt, W-U-N-D-T, la création du premier laboratoire de psychologie expérimentale en Allemagne, en 1871, je crois. Wundt, c'est un physiologiste qui va étudier expérimentalement, avec des statistiques, nos temps de perception, de concepts, d'images. Entre autres, il va étudier la mémoire, et ainsi de suite. Donc il y a tout un courant de psychologie expérimentale qui naît. Parallèlement, on a Freud. dont on sait ce que c'est. Et puis, parallèlement aussi, se crée le diplôme de licence à la Sorbonne en 1947. C'est Daniel Lagache qui crée cette licence de psychologie et qui crée la psychologie clinique. Alors Daniel Lagache, il est psychiatre et psychanalyste. Et c'est le premier à parler de l'unité, du manque d'unité de la psychologie, et fera son premier cours sur cette unité. Parce que c'est une discipline jeune, il faut attirer les étudiants, puis il faut s'attacher à la décrire. Et dira, j'avais le souci de chercher comment je pourrais enseigner une psychologie scientifique qui fut en même temps une psychologie concrète de l'homme aux prises avec d'autres hommes. Et il disait, il y a deux tendances en psychologie, une tendance naturaliste, qui va analyser le comportement avec la méthode expérimentale et statistique. Donc il y aura la psychologie sociale, la psychologie du développement, la psychologie expérimentale, dans laquelle on mettra le cognitivisme et le behaviorisme, entre autres. Et puis la seconde tendance, c'est la tendance humaniste, qui va centrer sur les conduites individuelles, et qui va travailler sur les affects, notamment, qui va s'appuyer sur l'approche clinique. Mais Lagache disait l'unité, ce serait que ces deux domaines, ce qui apparaîtrait comme une dualité, travaillent ensemble. J'avoue que quand je suis arrivée en 90 à Paul Valéry, premier cours, j'ai eu un psychanalyste qui a parlé d'orgasme. Donc une étudiante était fascinée. Ah, ça va être bien les cours. Moi je me dis, c'est un peu séducteur. Et puis vous aviez Denis Brouillet qui nous a fait du cours jusqu'à ce qu'on étudie en médecine. Monsieur, le vrai cours commence comment? Qui râlait contre la psychologie de profondeur. Donc il se plaignait de ses collègues et tout. Et c'est vrai que, en psychanalyse, on disait, il faut sentir, cherchez pas à comprendre, on sent les concepts. Moi, je ne sentais rien. Et je me suis régalée, donc, dans la psychologie de l'enfant, psychologie sociale, psychologie expérimentale. Mais voyez que cette manque d'unité a fait aussi que les émotions étaient du domaine de l'affect, donc on ne les a pas étudiées. Parallèlement encore, en psychologie, on a eu ce qu'on appelle le behaviorisme. Donc on étudiait les comportements humains. Ça pouvait être observé, les comportements humains. Alors, behaviorisme, c'était ça. Vous avez un stimulus qui entraîne une réponse. On étudie le stimulus, on étudie la réponse. La réponse, c'est le comportement. Il se doutait bien qu'il y avait peut-être quelque chose entre les deux, mais peut-être qu'il y avait les affects, les émotions, puis de toute façon, c'était compliqué à opérationnaliser. On s'en occupait pas. Et puis, il y a eu l'avènement des sciences cognitives. Alors, dans les sciences cognitives, il y avait la linguistique, il y avait les mathématiques, et il y avait la théorie de l'information de Shannon. Et il y avait aussi le début de la création des ordinateurs, de l'informatique. Et puis, les chercheurs, de plus en plus, ont essayé, par exemple, de faire dialoguer deux ordinateurs, puisque c'était vu comme une comparaison avec notre cerveau, notre mémoire. On pouvait faire dialoguer deux cerveaux ensemble. Donc on a créé, grâce à cette technique cognitive, ce qu'on appelait le système de traitement de l'information. Et c'est ça qu'il y avait au milieu. Système de traitement de l'information. Bon, maintenant, c'était stimulus traité par ce qu'on appelait la boîte noire, entraîne réponse. Mais dans le système de traitement de l'information, on ne mettait pas les émotions encore. On faisait appel à la cognition, aux stratégies de raisonnement, à la perception, à la mémoire, au langage, au raisonnement, aux opérations logiques qui conduisent au raisonnement. Et puis quand les informaticiens ont essayé de faire dialoguer deux machines ensemble, comme deux individus rationnels, ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Les ordinateurs n'ont pas d'émotion. Enfin, maintenant, oui, moi, quand je demande à Siri un matin, Siri, qu'est-ce qu'il pense de ça? Il me dit, je ne suis pas programmée pour répondre à cette question, Françoise. Vous dites pareil, le vôtre? Hein, vous dites pareil? Moi, c'est j'ai mis une bonne marque, bien sûr. Ben, voilà. Alors, traitement de l'information. Donc on s'est aperçu qu'il y avait que si on introduisait des programmes d'émotions qui faisaient appel à l'émotion dans les ordinateurs, comprendre l'autre, ce que l'autre me dit, peut-être qu'il y a un petit peu d'émotion, et bien ça fonctionnait. On pouvait faire dialoguer deux ordinateurs ensemble. Je vous le décris très, très sommairement et très grossièrement, bien sûr. Mais disons que les agents humains, comme on dit, ont plus d'une caractéristique à leur moyen pour utiliser ou pour produire un choix rationnel, raisonné. Je voudrais faire un tour par la dimension sociale des émotions, parce que là aussi c'est un point de vue critique qu'on peut amener pour montrer la difficulté de l'objet. Je vous ai parlé des Japonais. En fait, j'ai apporté ce gros bouquin-là, le dictionnaire du corps, et il y a un article remarquable d'un sociologue, André Le Breton, qui nous dit que on n'a pas d'émotion intrinsèquement comme ça, que bien sûr tout notre corps agité physiologiquement, tout notre gestuel montre qu'on a des émotions, mais on ne les a pas pour rien. On peut ne pas les avoir culturellement si notre culture ne nous prépare pas à nous dire ce qui fait peur, ce qui ne fait pas peur, ce qui rend triste. On ne ressentira pas les mêmes émotions. Vous connaissez, quelques-uns connaissent mon compagnon. Quelques-uns, quelques-unes. Et mon compagnon, au début, quand il était gêné, il éclatait de rire. Je lui dis, c'est pas normal. Avec ce que tu viens de faire, là, tu peux avoir honte, tu n'éclates pas de rire, parce que tu m'énerves encore plus, on ne va pas se calmer. Et il me dit, oui, il éclatait de rire. Et après, je me suis dit, c'est parce que je suis gênée que je rigole. Je dis, ben, t'es pas bien calmé, c'est pas possible. C'est pas comme ça qu'on exprime une émotion. Je me souviens d'une fois, j'étais au Japon, à 18h, je descends au spa dans un grand hôtel, avec ma... En maillot, mais j'avais mon sac, et puis je me mets, je fais mine de rentrer dans le spa, et la japonaise qui gardait la porte me barre la porte, et je lui dis, est-ce que c'est ouvert en anglais? Et j'ai. Ça me parle. Donc je rentre, puis elle me barre encore plus la porte. Je lui dis, je lui dis, est-ce que c'est ouvert? Est-ce que je peux y aller? Et elle me barre la porte, donc je lui dis un truc, je comprends pas. Je vais demander à mon époux qui parle anglais, qui m'en assez pour, et qui comprenait bien la situation. Il me dit, mais elle était tellement gênée d'avoir à te dire non. Elle ne pouvait pas te dire non. Donc, avec son corps, elle t'a montré non. Et avec sa tête, elle te disait un peu, oui, mais... Ah, c'est bien compliqué. Donc, les émotions n'auraient pas un caractère si universel que ça. On l'observe aussi dans les traditions autour du deuil. Alors c'est très codé le deuil, on a le droit de manifester beaucoup d'émotions si on est très proche du mort, de la personne morte. Selon son sexe aussi, on va manifester des émotions, encore si on avait des pleureuses, en Grèce aussi, je crois, dans les pays méditerranéens. Donc il y a une façon culturelle de parler des émotions. Et puis je vous ai parlé de Damasio. Parce que là on a évoqué le détour par les philosophes, qui ne voulait pas lier émotion et raison, par quelques-uns qui disaient « mais c'est pas possible qu'il y ait un lien », par la psychologie behavioriste, cognitiviste, qui travaille finalement avec maintenant, et puis un chercheur, enfin c'est pas un chercheur, c'est un neurologue, Antonio Damasio, dans les années 90-95, il publie un bouquin qui s'appelle « L'erreur de Descartes, la raison des émotions ». Alors pourquoi j'ai cité Damasio? Tu m'as repris, tu as mis entre autres Damasio, bien sûr, entre autres, mais Damasio, il vulgarise très bien. C'est sûr que son bouquin, il faut être intéressé par la neurophysiologie, mais pas seulement, parce qu'il raconte bien ses histoires. Si vous allez voir des conférences sur YouTube, il parle très bien, Damasio, il explique bien, donc c'est un chercheur. Donc Damasio, dans son laboratoire, on lui confiait tous les patients qu'on n'arrivait pas à bien traiter. Et un jour, Damasio reçoit un patient qu'on va appeler Elliot, qui l'appelle Elliot. Alors Elliot, il a eu, je crois, un cancer. Elliot, qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a été opéré d'une tumeur dans la région du cortex préfrontal. L'opération s'est bien passée, son QI est intact. Et pourtant, Elliot, il a une VDM, comme on dit aujourd'hui. Une vie de merde. Il a perdu sa famille, son épouse l'a quitté, c'était un brillant informaticien et on ne peut plus l'embaucher pour travailler. Donc on retourne consulter, puis Damasio cherche, tous ses clichés sont bons, son test de QI est bon, et puis Damasio, qui travaillait un petit peu, qui avait déjà des intuitions de chercheur, lui montre des photos atroces d'accidents de voiture. magie aussi, du sang, vous voyez qu'on a du sang quand même. Et puis la masure, il n'y agit pas du tout. Aucune émotion. Même s'il est gradué de plus en plus, il ne montre aucune émotion et la masure se dit mal. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien entre les deux? Damasio disait que faire le lien entre émotion et cognition, c'était comme penser au mélange eau et huile. Vous voyez comment considérer les deux déjà. Donc, Eliot pouvait rester coincé des heures sur une tâche. Quand on fait des tâches de raisonnement, on sait quand on étudie l'accès au raisonnement chez les enfants, on sait que nous pensons souvent par heuristique. Ce sont des schémas de pensée présents dans le cerveau. On peut en avoir plusieurs qui arrivent en même temps, mais on fait un choix, on en choisit. Et Eliot, il les avait, ces heuristiques, mais il ne pouvait pas choisir. Il ne choisissait pas. Et donc, il pouvait rester coincé. Bon, on ne paye pas quelqu'un pour rester coincé sur une tâche. Donc, son raisonnement tournait à vide, Damasio disant l'apport émotionnel essentiel à toutes les prises de décision. Et Damasio dit, c'est une évidence. Les émotions ne sont pas du tout des éléments perturbateurs pénétrant de façon inopportune dans la tour d'ivoire de la raison. L'affaiblissement de la capacité à réagir émotionnellement peut également être la source de comportements irrationnels. Sans émotion, l'individu ne peut pas vivre en société. Donc il va donner une explication physiologique. Je vais la dire rapidement parce que là, comme la philosophie pour Florian, je vais avoir Gilles. En fait, quand on a une sensation qui va provoquer une émotion, voilà ce qui se passe à peu près dans le cerveau, très très gros. Hein. Les signaux sensoriels sont acheminés jusqu'au thalamus. C'est une structure qui est au milieu du cerveau qui sert de relais distributeur entre les cellules sensorielles et le cortex cérébral. Et là, en même temps, partant du thalamus, les signaux sont envoyés en même temps au système limbique, donc c'est la voie courte qui s'occupe de traiter les émotions, et au cortex qui va s'occuper de faire le lien, de provoquer des idées, des connaissances. Et donc cette voie courte et cette voie longue font que quand on raisonne avec nos émotions. Je vais finir en vous donnant des résultats d'expérience. Pour Damasio, bon, la voie courte, c'est la voie émotionnelle. Elle permet à l'organisme de se préparer à l'action. Et la voie longue correspond à la voie rationnelle, permet une analyse élaborée de la situation. Mais toute entrée fait l'objet d'une analyse globale par les deux voies. Et je pense que je vais pouvoir finir à temps. Alors, on savait déjà, on pensait déjà qu'il y avait un lien. Puisque moi, j'ai fait une spécialisation en psychologie de développement. On a beaucoup travaillé sur les tâches piagiciennes. Et quand je vous parlais la dernière fois de la psychologie d'enfant, c'est écrit par Olivier Houdet. Avant, c'était Jean Piaget qui avait écrit ça. Mais je sais que dans beaucoup d'écoles de soignants, on parle encore que des tâches piagiciennes. On ne critique pas. Et Olivier Houdet et les neurosciences ont permis de retravailler les tâches piagiciennes. Il y a une tâche piagicienne de conservation des quantités. Ça parle à quelqu'un un petit peu les tâches du raisonnement chez les enfants? Pas du tout. Il y a une tâche qu'on appelle les tâches de conservation de quantité. On a tous et tout un biais cognitif de conservation, longueur égale nombre. Vous allez comprendre. Donc la tâche de conservation des quantités, on met des bûchettes devant un enfant. On aligne deuxième rangée, j'en ai 7. Hein. On lui demande est-ce que c'est pareil. On fait ça aux enfants entre 2 et 7 ans. Est-ce que c'est pareil? Les enfants, perceptivement et nous aussi, on dit que c'est pareil. Les enfants, ils disent, la deuxième rangée, c'est la même, t'as rien ajouté, t'as rien enlevé. On voit déjà le raisonnement. L'astuce, c'est de prendre sa main. Là, je ne le fais pas, je n'ai pas de main. Pour ça. Voilà, et on demande aux enfants. Et maintenant, dans les deux rangées, est-ce que c'est pareil? Donc, ceux de 7 ans, ils vont dire, c'est pas de la réversibilité opératoire. Tu n'as rien ajouté, tu n'as rien enlevé. Mes enfants de 10 ans, de 2 ans, longueur égale nombre, il y en a plus, là. C'est C'est un biais cognitif. On fait ça avec des bûchettes. Alors, il y a un psychologue français, et ses résultats ont été publiés dans Science, qui n'est pas rien, qui fait une expérience avec des bonbons. Alors, il modifie un peu le dispositif expérimental. Il va faire deux tas comme ça. Imaginez les petites frites là qu'on voit en sachet, là, Ribo. Hein? Imaginez ça. Plein, 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 plein. Des frites de chaque côté. Si on reste au biais cognitif longueur égale le nombre, les enfants vont dire qu'il y en a plus là. Mais c'est des bonbons. Et ce qui était réussi à 7 ans pour la tâche d'avant est réussi à 2 ans avec des bonbons. À 2 ans, on peut dire la structure mentale, raisonnement, c'est pas encore acquis, mais on a mis de l'émotion dans la tâche. Parce qu'on leur disait, bien sûr, si tu trouves la réponse, tu vas pouvoir les manger. Vous mettez quoi, ça passe. Donc, on met de la, dans les structures de la motivation, il y a aussi du plaisir, hein, du plaisir ou de la crainte, il y a de l'émotion dans la motivation. Hein, ma motivation à venir faire la bulle ce matin devant vous en tâchant de vous faire rire alors que j'aurais pu dormir, faire la grasse matinée, ben, j'avais envie de partager. Hein, on vit aussi l'émotion. Donc, c'est réussi. Donc la critique, ça a été qu'il a déjà dit oui, mais c'est pas la même expérience, c'est pas le même dispositif expérimental, n'empêche que. Donc il y a cette expérience-là qui montre déjà un lien. Alors ça n'a pas été fait pour prouver le lien entre émotion et raison, mais le lien entre les deux aussi. On sait que dans les psychothérapies cognitivo-comportementales, les TCC, on travaille beaucoup sur les émotions. Les psychologues font remplir un tableau aux gens qui sont en souffrance, alors ils viennent souvent. Bon, moi, je ne suis pas spécialisée des TCC, mais j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir pour des problèmes d'anxiété. On parle maintenant de troubles anxieux dans lesquels. Avant, c'était névrose d'angoisse, hein, c'était du temps de phrase. Enfin, non, jusqu'à 1983. L'anxiété, elle survient avec des idées, des situations, ou des représentations exagérées d'une situation. Donc, on fait remplir un tableau. Première colonne, c'est le fait, l'événement, la pensée qui a suscité des réactions anxieuses. Deuxième colonne, qu'est-ce que j'ai pensé tout de suite après quelles ont été mes cognitions, on appelle ça comme ça, après cet événement. Troisième colonne, quelle émotion j'ai ressenti. Et après, on dit, comment j'aurais pu penser différemment pour apaiser l'anxiété. Puisqu'on sait que l'anxiété, c'est exagérer la réalité, c'est plutôt dans une journée attacher plus d'importance à des signes négatifs plutôt qu'à des choses positives. Donc, on peut refaire ce qu'on appelle la médiation cognitive en se servant aussi des émotions. Alors, c'est vrai que la partie recherche sur les émotions, comme j'en parle pas aujourd'hui, ça ne les intéresse pas beaucoup, les soignants là-dessus. Vous avez tout dans le petit bouquin, je mettrai les références sur le texte que je donnerai aujourd'hui. Émotion et cognition, quand l'émotion parle à la cognition. Nathalie Blanc, Riel Cisso et Denis Brouillet, donc ce sont des chercheurs de Montpellier-Trois qui ont travaillé là-dessus. Et ici, de toutes les expériences. Vous connaissez les processus d'attribution. Je crois qu'on en a parlé à l'Université d'Automne. Comment on attribue les conséquences d'une action? C'est-à-dire, si j'ai eu 18 à un devoir, est-ce que j'ai beaucoup travaillé ou est-ce que le prof est amoureux de moi? Attribution externe, interne. J'ai beaucoup travaillé, je m'attribue la responsabilité de ma note. Attribution externe, qui marche aussi si j'ai raté, hein. C'est la faute d'eux, mais c'est grâce. Et dans les processus d'attribution, se mêlent les recherches montrent beaucoup de liens avec l'émotion. J'ai intégré, pour m'aimer, à m'attribuer des attributions externes ou internes pour garder mon estime de moi. On a plein de biais de pensée, hein, dissonance cognitive dont on parlait à Marseille au Jampi. J'ai besoin d'être en accord avec moi. Ben, être en accord avec moi, c'est marquer une préférence quand même pour ce que je pense plutôt que pour le voisin, ce que le voisin pense. Donc il y a des liens entre conserver une estime de soi positive, motivation. Donc cette dynamique attribution-émotion et émotion-attribution est très recherchée. On fait beaucoup de recherches dessus. C'est Corinne Mangard à Montpellier. Je vais finir. Beaucoup de recherches sur le genre, enfin, les Women's Studies, travaillent sur la menace du stéréotype. Si on prend les classes de filles et de garçons, pour une tâche de géométrie, on va dire que c'est dans une classe, on va dire que, donc garçons et filles confondus, c'est une tâche de dessin, et dans l'autre classe, que c'est une tâche de mathématiques. Les filles vont mieux réussir si c'est présenté comme une tâche de dessin que si c'est présenté comme une tâche de mathématiques. Je me souviens d'un pilote de ligne, mon ex-mari est pilote de ligne, et c'était un monsieur qui était instructeur et qui faisait passer les sélections, les épreuves de sélection. Il y a eu quelques femmes quand même qui ont tenté l'aventure, et il nous disait ça, donc là, il y a plus de 15 ans. Ouais, les femmes, on n'en veut pas. Moi, j'ai un truc. J'ai envie tout de suite que l'épreuve à laquelle elles vont assister, qu'elles vont faire, je leur dis que les filles ne réussissent pas. Ça, c'est la menace du stéréotype. Et ça produisait effectivement l'effet recherché. Enfin, il y a drôlement costaud pour se dire l'anxiété et le raisonnement. On sait que quand on est en deuil, on ne raisonne pas de la même façon, on est plus lent, on sait que l'émotion affecte la mémoire aussi. Donc la menace du stéréotype montre aussi les liens entre rationalité, réflexion et émotion. Je vais finir en vous parlant de l'intelligence émotionnelle. Alors, je vais vous apporter un bouquin de Daniel Goleman. Goleman, ce n'est pas vraiment un chercheur, c'est un psychologue qui est devenu journaliste scientifique. Moi, j'ai fait passer des tests de QI quand j'ai travaillé pour mon titre de psychologue. Et c'est vrai que le test de QI fait peu appel à l'émotion. C'est le test de raisonnement divers. En plus, oui, il fait appel à l'émotion parce qu'il faut réaliser très vite les tâches. Hein? Bon. Ce n'était pas Goleman qui a travaillé sur l'intelligence émotionnelle, c'était Salovey et Meyer. Ils disent que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à surveiller ses propres sentiments à ceux des autres, à les discriminer et utiliser cette information pour guider sa réflexion et ses actions. L'intelligence émotionnelle nous sert personnellement et nous sert dans nos interactions avec les autres. Donc Christophe André Delors l'a repris dans le petit bouquin « Force des émotions ». Et eux, ils n'aiment pas le terme intelligence, on est quelques-uns à périmer, ils parlent de capacité émotionnelle. Donc, c'est quatre composantes. Première capacité, je vous promets qu'il y a des gens qui ne l'ont pas déjà celle-là, c'est comprendre ce qui se passe quand on a de l'émotion, c'est savoir la nommer. Comme ce matin, j'ai cherché mon degré d'énervement, et je me suis dit, moi, je suis juste contrariée, allez, ça va. Contrariée, c'est pas grave. Le premier degré de la colère, je peux supporter. Donc, savoir nommer ses émotions, et c'est vraiment un exercice que je vous engage à faire tous les jours. Si vous avez une émotion, dites-vous, je la situe où sur l'échelle là ? Qu'est-ce que j'en fais ? J'ai fait la part du jeu, mais c'est pas grave, je laisse. Je suis tellement contente de venir vous parler. Donc, savoir nommer son émotion, la ressentir, la nommer. Deuxièmement, accepter de la montrer. Si j'avais le trac, je serais assis derrière là, et je serais derrière mon ordinateur, vous voyez ? Non, j'accepte de vous montrer les émotions. Donc savoir les reconnaître, savoir les montrer aux autres. Troisième capacité, c'est les reconnaître chez les autres. Vous voyez comment c'est difficile selon les cultures et selon les gens aussi. Et vous avez des gens qui sont dans ce qu'on appelle la coupure émotionnelle. Je me souviens avoir reçu un père d'un adolescent vraiment très perturbé. Je suis le père et la mère. Le père, il n'a pas bougé pendant une heure. Il était un roc. Il ne montrait rien, il ne bougeait pas, il ne parlait pas non plus. J'ai dit, waouh. C'est difficile de rentrer en interaction avec lui. Vraiment très difficile. C'est une protection, hein. Donc, pouvoir les reconnaître chez les autres. Et quand on les reconnaît, qu'on connaît la nôtre et qu'on connaît celle des autres, c'est très utile pour les soignants aussi. Hein. Bon, mes étudiants orthoptistes qui me disent, mais quand il y en a un qui rentre et qui m'engueule parce qu'il a attendu une heure, qu'est-ce que je fais? Dans quel état ça vous met déjà? Et comment vous pouvez faire passer? Comment en discutant? Vous pouvez d'abord reconnaître l'émotion de l'autre. Et puis, qu'est-ce qu'on décide d'en faire, quoi? Et donc, savoir donner capacité, savoir les utiliser intelligemment. Quand le monsieur à qui j'avais barré la route dans un rond-point descendu de sa moto, poing serré, pour venir m'engueuler, que j'ai courageusement baissé la vitre, qu'il a hurlé sa colère sur moi. Je me suis dit après, s'il m'a dit, il m'avait dit qu'on m'avait coupé la route, j'ai eu drôlement peur. J'aurais pris autrement que là, je lui ai laissé tellement déverser sa colère que j'ai hurlé un merde retentissant. J'ai fermé ma vitre et je suis repartie sur le château de route. Je venais de vivre des choses pas très drôles aussi, c'était pas le moment de m'embêter. Mais il aurait dit, oh, j'ai eu peur, vraiment. Mais est-ce que les hommes reconnaissent leur peur? C'est difficile, hein. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on appelle gérer ses émotions. Hein, et quand on apprend le langage des émotions aux enfants, on leur apprend aussi ce qu'on en fait. Mais je pense que j'ai bientôt fini de rencontre. Alors vous allez me dire, Zidane. Je vous ai dit coup de boule à la 107e minute et 40 secondes. En fait, ce n'était pas à la 30e seconde, c'était à la 52e seconde. Pendant les 12 secondes, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes au courant de ça quand même, pas?
Oui,
bon. On a cherché à lire sur les lèvres de Materazzi, parce qu'il avait dit à Zidane, parce que c'est pas pour rien que Zidane lui a mis un coup de boule dans le thorax. En fait, ça faisait quelque temps pendant le match que Materazzi tirait sur un t-shirt de Zidane. On le voit ça dans les matchs, il se tire pour s'empêcher un petit peu. Et donc, à un moment, Zidane lui dit, écoute, patiente, tu l'auras, je lui donnerai à la femme mon t-shirt. Et Materazzi a dit que Zidane lui avait parlé d'un ton un peu méprisant, quoi, de le traitant de conflit et que lui tirerait son t-shirt à la femme. Sur ce, Materazzi, quand Zidane lui dit patiente, je le donnerai à la femme son t-shirt, tu dis, je préférerais que tu me donnes ta putain de sœur. Et le coup de boule n'est pas venu tout de suite. La putain de sœur, c'était 107e minute et 40 secondes. Je ne sais pas si vous voyez l'image, Zidane, il se passe ça, il tire le t-shirt, Zidane il part, il revient. Trois fois il fait ça, il part, il revient, et il décide de mettre un coup de boule. C'était pas un coup de sang. Il a très bien expliqué Zidane. D'abord, effectivement, ça met une émotion de parler de sa putain de sœur, mais il n'est pas bête. Il sait que c'est son dernier match, il sait que son équipe compte sur lui. Il sait qu'ils n'ont pas encore assez de points pour se dire j'ai fait un lourd et là puis je laisse aller ma colère. Les valeurs de Zidane, c'était que la sanction doit venir à celui qui provoque la réaction. Et c'est tout ça qu'il pense pendant les 12 secondes. Il se dit, je ne peux pas laisser passer, c'est pas possible, on sera punis tous les deux si jamais. Mais je peux pas. Donc il fait ses hésitations, ses allers-retours. Il a dit, vous croyez qu'à 10 minutes de la fin de ma carrière, j'aurais fait ce geste par plaisir. Donc c'est un geste pensé. On peut penser que c'est un geste raisonné. Il y a eu de la gestion de l'émotion. Par rapport aux valeurs, il y a eu toutes les étapes dont je vous ai parlé, entre l'expression, parce que le coup de sang, ça aurait été immédiat, quoi. Tu m'as putain de sœur, je te fais un coup de bille direct. Là, il y a eu 12 secondes quand même, mais c'est bien expliqué. J'ai pas fini, Michel. Mais oui, en fait, j'ai fini. Voilà, donc Zidane était-il dans l'émotion, dans la raison? Je vais finir là-dessus. Merci de votre attention.
Donc,